Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Dans l'actualité ce soir, le discours fort du président ukrainien à l'occasion du 8 mai 45. Volodymyr Zelensky, dans une vidéo tournée devant des immeubles en ruine, compare les bombardements des villes européennes par l'Allemagne nazie à ceux de son pays par la Russie. Le mal, dit-il, est de retour.
Chaque année, le 8 mai, nous rendons hommage à tous ceux qui ont défendu la planète contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous dites « plus jamais ». Parlez-en à l'Ukraine.
Et les sanctions contre la Russie se renforcent. Les pays du G7 s'engagent ce soir à arrêter d'importer progressivement du pétrole russe. Et à la veille des célébrations annoncées importantes du 9 mai en Russie, l'inquiétude se porte sur la ville de Mariupol en Ukraine où la menace d'un assaut final de l'armée russe se précise. L'actualité en France, marquée aujourd'hui par les 20 ans de l'attentat de Karachi au Pakistan, 14 personnes dont 11 Français ont perdu la vie. Cherbourg a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de l'attentat. La page sport de ce journal avec au menu Nantes qui fête la victoire en finale de la Coupe de France de football et trois clubs français, Toulouse, La Rochelle et le Racing 92 en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Notre rendez-vous du dimanche 19h, c'est mon actu. Sandrine Houdin, micro ouvert ce soir à une spécialiste des superstitions. Vendredi prochain, c'est vendredi 13. La météo, douceur et température en hausse, Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Fantine, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir qu'est-ce le bug d'informatique.
Les petits bateaux, après ce journal.
France Inter.
74e jour de conflit en Ukraine et une parenthèse courte dans l'horreur des bombardements. Trois personnalités sont venues témoigner leur soutien aujourd'hui aux Ukrainiens. Visite surprise de Jill Biden dans l'ouest de l'Ukraine. La première dame américaine a rencontré son homologue ukrainienne Olena Zelenska pour témoigner à l'occasion de la fête des mères le soutien de l'Amérique au peuple ukrainien. Le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est lui aussi rendu, mais cette fois à Irpin, près de Kiev, une ville dévastée par les combats et dans le même temps, une image surprenante, le chanteur Bono et le guitariste The Edge du groupe U2 ont donné aujourd'hui un concert dans le métro de Kiev, un spectacle de solidarité à la demande du président Zelensky, envoyé spécial à Kiev, Arthur Gerbeau, Agathe Mahué.
Trois micros, un projecteur et dans leur dos les escalators du métro. Concert surprise de Bono et en tout petit comité avec son guitariste The Edge et les membres du groupe ukrainien Antitila en uniforme militaire revenu du front pour l'occasion. Le classique Stand By Me devient Stand By Ukraine. On est là à deux pas de la place Maïdan. Le chanteur de U2 dit avoir été invité par le président Zelensky, invité à offrir ce spectacle en signe de solidarité avec les Ukrainiens. Nulle part ailleurs au monde nous aurions voulu être aujourd'hui, dit Bono. Nulle part ailleurs qu'à Kiev, cette ville merveilleuse. Capitale où résonnent encore pourtant quotidiennement les sirènes d'alarme anti-aérienne face à l'offensive russe. Moment suspendu pour les soldats ukrainiens face à lui. Le chanteur de Sunday Bloody Sunday a fait référence à son Irlande, troublée elle aussi à une époque par un voisin plus puissant qu'elle. Puis Bono a lancé une prière pour la paix en Ukraine.
Et les vidéos de ce concert de Bono dans le métro de Kiev sont à retrouver sur franceinter.fr. Cette guerre des images et de la communication ne fait bien sûr pas oublier les atrocités du conflit. Cet après-midi, dans un message vidéo à l'occasion du 8 mai, le président Zelensky, dans un discours poignant, a expliqué que des décennies après la Seconde Guerre mondiale, le mal est de retour en Europe. Bertrand Galichet.
Dans cette vidéo, qui comporte des images de l'invasion russe et des archives de la Seconde Guerre mondiale, Volodymyr Zelensky accuse Moscou de mettre en œuvre une reconstitution sanglante du nazisme en utilisant les idées, les actions, les mots et les symboles du régime nazi, tout en donnant des justifications visant à attribuer à ce mal un but sacré. Chaque année, le 8 mai, avec l'ensemble du monde civilisé, nous rendons hommage à tous ceux qui ont défendu la planète contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous dites « plus jamais ». Parlez-en à l'Ukraine. Le 24 février, le mot « jamais » a été effacé, abattu et bombardé par des centaines de missiles à 4 heures du matin qui ont réveillé toute l'Ukraine. Les ténèbres sont retombées sur l'Ukraine, dit aussi Volodymyr Zelensky dans cette vidéo tournée en noir et blanc, une réponse aux accusations récurrentes du président russe contre le régime ukrainien, comparé par Moscou à celui de l'Allemagne nazie.
Bertrand Galichet, ce soir, l'attention et l'inquiétude se portent sur la ville de Mariupol où la menace d'un assaut final de l'armée russe se précise. Les derniers soldats ukrainiens du régiment d'Azov, retranchés dans les galeries de la sidérurgie d'Avostal à Mariupol, ont annoncé aujourd'hui dans un message vidéo que capituler n'est pas pour eux une option. Depuis hier, tous les civils, femmes, enfants et personnes âgées ont été évacués de l'usine d'Azovstal. Et selon le général Jérôme Pélistandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, le Kremlin peut désormais donner l'assaut.
Il s'agit désormais pour Moscou en fait de liquider Azovstal, et j'emploie sciemment le mot liquider, c'est-à-dire supprimer tout ce qui peut rester comme combattant pour pouvoir donc affirmer une victoire définitive sur cette ville-là.
Capituler n'est pas une option, disent les forces ukrainiennes dans cette série justement d'Azovstal. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à un bilan dramatique.
Oui, mais il faut aussi voir pourquoi ils combattent. Ce matin, Vladimir Poutine a fait une déclaration où il disait qu'il fallait empêcher la renaissance du nazisme, qu'il fallait libérer la terre natale de l'Ukraine de la crasse nazie, et on peut comprendre que les combattants ukrainiens, même s'ils appartiennent à une unité connue pour son nationalisme, sont avant tout là pour défendre l'Ukraine, pour défendre leurs concitoyens, et surtout, ils savent que par leur sacrifice, eh bien, d'une part, ils permettent de gagner du temps pour les combats qui ont lieu dans le Donbass. Donc, ils iront jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils n'auront plus de munitions.
Le général Pélistrandi avec Bernard Thomasson sur France Info. Et ce soir, les dirigeants des pays du G7 réunis en visioconférence à l'initiative du président américain Joe Biden sont tombés d'accord pour interdire ou supprimer progressivement leurs importations de pétrole russe. À l'étranger, encore en Chine, et alors que Shanghai est toujours partiellement confiné, l'activité a bien du mal à reprendre dans la capitale économique. Et malgré un dispositif spécial mis en place par les autorités pour aider les grosses usines à reprendre leur production, la situation reste compliquée. Le confinement empêche toujours un retour à une vie économique à peu près normale. Explication avec notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
La municipalité de Shanghai a établi une liste blanche d'entreprises prioritaires. Près de 2000 ont été autorisées à reprendre la production avec un système de bulles sanitaires. Mais les usines rencontrent des difficultés. Nous avons appelé plusieurs d'entre elles au téléphone. Par exemple, ce géant des nouvelles technologies avec 5000 employés qui n'arrive pas à faire fonctionner l'une de ses usines parce que seulement 40 ouvriers ont été autorisés à travailler. Impossible de reprendre dans ces conditions. Pour le moment, seuls les gardiens sont présents sur site. Difficulté qui touche aussi les entreprises étrangères, européennes notamment. Jörg Wüthke est le président de la Chambre européenne de commerce en Chine.
Il va falloir du temps pour remettre tous les fournisseurs en marche. Je veux dire par là que vous pouvez vendre une voiture, mais si vous n'avez pas de frein, ce n'est pas vraiment une voiture à vendre. Sur la liste blanche, il y a maintenant 1800 entreprises environ. Mais que signifie 1800 entreprises dans une ville où il y a 3,1 millions d'entités économiques? Nous sommes sur la bonne voie, mais c'est encore à un niveau très bas.
Les autorités de Shanghai font des prévisions qui apparaissent bien optimistes. Elles estiment que d'ici le 20 mai, le taux de reprise du travail à Shanghai devrait avoir atteint les 95%. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
On revient en France avec les cérémonies du 8 mai 45, au lendemain de son investiture pour un second mandat. Emmanuel Macron a ravivé ce matin la flamme du soldat inconnu et présidé les commémorations du 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce 8 mai marque aussi les 20 ans de l'attentat de Karachi au Pakistan, et Cherbourg a rendu hommage aux victimes aujourd'hui. Un drame qui a coûté la vie à 14 personnes, dont 11 Français, salariés de l'ancienne direction des constructions navales, dont 8 habitants de Cherbourg. 12 personnes ont également été blessées gravement dans l'explosion du bus qui les conduisait de leur hôtel au chantier de construction d'un sous-marin. 20 ans, jour pour jour après l'attentat, une cérémonie était donc organisée devant la stèle commémorative des victimes à la Cité de la Mer. Léa Dubost, France Bleu Cotentin.
Le maire de Cherbourg en Cotentin, Benoît Arrivé, est le premier à prendre la parole.
Ils étaient ici et ils sont morts assassinés là-bas alors qu'ils partaient au travail. Depuis 20 ans, le 8 mai a la couleur du deuil à Cherbourg. Nous ne les oublions pas, nous ne vous oublions pas.
Parler de ces 11 Français morts à Karachi et non pas du volet judiciaire de cette affaire, c'était la volonté des familles et de Sandrine Leclerc lors de son discours. Elle a perdu son père dans l'attentat.
Aujourd'hui, si nous sommes réunis, ce n'est pas pour parler d'un dossier tentaculaire, c'est pour eux et pour se souvenir. Des hommes que l'on a arrachés à la vie, à leur famille, et qui ont laissé derrière eux 11 veuves et 27 orphelins. 20 ans après, nous, ce qui nous reste, c'est l'absence, et que rien ni personne ne pourra combler. Vous nous manquez.
Les familles déposent des fleurs devant la stèle et la cérémonie très sobre se termine. Tous restent immobiles de nombreuses minutes dans un silence absolu. À l'écart, Fanny, fille d'une victime, elle se dit rongée par la quête de vérité.
Je suis révoltée contre la France. La tristesse, c'est toujours là, mais la colère, elle est énorme.
Son amie Nathalie l'aide à parler.
Que justice soit faite, quoi. Oui, il faut qu'ils sachent, au moins qu'on leur rende ça.
20 ans que les familles et les rescapés cherchent à savoir ce qu'il s'est vraiment passé le 8 mai 2002. Ils disent se sentir oubliés. Aucun représentant de l'État n'était d'ailleurs présent à la cérémonie.
La politique ce dimanche est la question du pouvoir d'achat qui revient dans le débat. Hier, lors de son discours d'investiture, Emmanuel Macron a appelé à agir sans relâche et le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat doit être examiné dès le lendemain des législatives de juin par la nouvelle Assemblée. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, un paquet de mesures sur le pouvoir d'achat avec notamment un chèque alimentaire. Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'a confirmé aujourd'hui. Ce paquet pouvoir d'achat sera voté d'ici l'été.
Sur le chèque alimentaire, Julien Denormandie a l'occasion de dire qu'il y aurait un chèque d'entre 50 et 60 euros par mois qui pourrait être versé aux bénéficiaires des minima sociaux, à un certain nombre de personnes qui ont jusqu'à des difficultés pour faire leurs courses. Mais le paquet de pouvoir d'achat, ce n'est pas que ça. C'est regarder quelle pérennité et sous quelles conditions on donne à la ristourne à la pompe. Précisément, il va falloir regarder comment le prolonger selon comment évoluent les cours du pétrole et autres. Privilégier sans doute aussi les gros rouleurs, celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail. L'augmentation de la prime d'activité. Le fait que l'on indexe les retraites sur l'inflation constatée, tout ça, cela forme un paquet, si je puis dire, pouvoir d'achat. Dès que les députés seront élus, eh bien, les choses qui doivent passer par la loi passeront par la loi au plus vite et donc après les élections législatives.
Richard Ferrand, invité aujourd'hui de Dimanche Politique sur France 3. Le scandale dans les EHPAD d'Orpea. Philippe Charrier, le PDG d'Orpea, affirme aujourd'hui dans un entretien au journal du Dimanche que son groupe a péché par manque de rigueur et il souhaite bâtir un nouvel Orpea dans la transparence. Le groupe fait depuis fin avril l'objet d'une enquête judiciaire ouverte à Nanterre sur des soupçons de maltraitance institutionnelle ou d'infraction financière. Et l'avocate Sarah Salman, qui a déposé début avril 80 plaintes contre Orpea, regrette de ne pas entendre de véritables excuses de la part d'Orpea.
Ça m'évoque un mea culpa en bonne et due forme, si je puis dire, mais il manque l'essentiel, il manque quand même les excuses aux familles, aux victimes. Ça veut dire que c'est un réel mea culpa, hein, parce qu'en février, je le rappelle, Monsieur Charrier disait qu'il n'y avait pas de système qui mettrait la priorité sur le profit et que la réalité de terrain n'était pas du tout ce que l'on peut entendre. Donc il y a vraiment un revirement, on dirait qu'il faut qu'ils soient au pied du mur pour reconnaître leurs erreurs, mais en tout cas, je ne vois pas vraiment de mots pour les familles et les victimes. Toutes les familles que je représente m'ont dit « nous attendons des excuses ». Je l'ai déjà dit plusieurs fois, là il a l'occasion de s'exprimer, il l'a eu plusieurs fois et je ne vois pas d'excuses. Donc bon, on a manqué de rigueur, je trouve que c'est très léger, donc là ce sont les rois de l'euphémisme, hein, si je puis dire, mais il n'y a pas un mot réel pour les familles. Donc c'est un manque d'empathie, je dirais, parce que les faits que moi j'ai pu voir, les preuves que j'ai reçues sont extrêmement graves et accablantes. Et j'ajouterais que je reçois de nouveaux signalements quasi quotidiennement pour des faits qui ont lieu actuellement.
L'avocate Sarah Salman avec Emmanuel Leclerc. Il est 19h14. La page sport de cette édition. Bonsoir Ima Sarango.
Bonsoir.
Et la place Foch à Nantes célèbre ses nouveaux héros.
Les vainqueurs de la Coupe de France de football, tombeurs hier soir de Nice au Stade de France, sont arrivés il y a environ une heure dans le centre-ville pour une cérémonie à la mairie d'abord, puis une communion avec leurs supporters. Mathieu Bonnour, vous êtes sur place pour France Inter, au cœur de cette marée jaune et verte.
C'est une vraie marée, hein, en effet. Ici, l'explosion de milliers de supporters. Ils sont 15 000 à applaudir, chanter. Ça fait maintenant 20 minutes que les joueurs sont arrivés. Tout le monde explose ici. On exalte. Ils ont enfin soulevé la Coupe de France ici à Nantes. Toutes les générations sont réunies. Beaucoup en jaune et vert, des maillots de toutes les époques, surtout des sourires partout sur tous les visages. Et ça fait du bien. 21 longues années sans titre qui prennent fin avec cette victoire en finale de la Coupe de France. Il y a une chose qui a un peu compliqué la fête ici, c'est la Brigade Loire, un groupe de supporters qui s'oppose depuis de longues années au président du FC Nantes, Valdemar Quitta. Ils ont forcé le périmètre de sécurité, ça a retardé l'arrivée des joueurs, mais maintenant c'est bon, on met les différents de côté, c'est ce que me dit un supporter. Un autre a des larmes aux yeux, seulement là, à quelques mètres de moi, on sent beaucoup d'émotion dans cette foule, les supporters qui vont pouvoir continuer de la fêter ce soir cette coupe, et vous l'entendez derrière moi. Ce n'est pas prêt de s'arrêter maintenant.
Mathieu Bonnour en direct de Nantes pour France Inter. En Ligue 1, la descente aux enfers se poursuit pour Bordeaux. Les Girondins battus 4 buts à 1 à Angers pour la 36e journée pourraient être relégués dès mercredi en cas de victoire de Saint-Etienne à Nice en match en retard. Alors l'entraîneur bordelais David Guillon ne peut qu'être lucide.
Comment on a pu se planter, s'aborder au bout de 6 minutes de jeu? C'est l'histoire aussi de notre saison, c'est toutes ces erreurs individuelles. On est incapable de les surmonter. On savait que cet après-midi, il nous fallait la victoire. C'est vraiment une grosse déception parce que, encore une fois, les garçons n'arrivent pas à surmonter leurs erreurs.
Bordeaux qui passe désormais derrière Metz, 19e grâce à une victoire 3-2 face à Lyon. L'OL dit quasiment adieu à l'Europe, tandis que Marseille reprend à Monaco la deuxième place en s'imposant 3-0 à Lorient. Ce soir, le PSG, déjà titré, reçoit 3.
Le rugby, la Coupe d'Europe, et il y aura 3 clubs français dans le dernier carré.
Le Racing 92 est le dernier qualifié grâce à une victoire 41-22 face à Sale. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Emma.
Vous avez suivi la rencontre pour France Inter et la tâche n'a pas été trop compliquée ce soir pour les Franciliens.
Non, une mi-temps un petit peu laborieuse. Les Anglais menaient 10 à 6 à la pause et puis les Racingmen ont fait la différence en début de deuxième mi-temps. 2 essais en 10 minutes, 2 essais superbes signés Teddy Thomas et Finn Russell. Et ensuite, le score a grandi pour cette équipe du Racing qui s'impose finalement donc 41 à 22. On le sait, c'est l'objectif du club depuis plusieurs années de remporter enfin une Coupe d'Europe. Les Racingmen ont perdu les 3 finales de Coupe d'Europe qu'ils ont disputées. On connaît donc désormais le tableau des demi-finales. Vous le disiez, comme l'an dernier, 3 clubs français en demi. Samedi prochain, Toulouse affrontera les Irlandais du Leinster à Dublin. Et puis dimanche, cette équipe du Racing 92 affrontera l'équipe de La Rochelle, non pas ici à l'Arena de Nanterre car il y a un concert ce soir-là, mais à Lens, Racing La Rochelle, donc dimanche au stade Félix Bollard.
Et dans le challenge européen, Toulon rejoint Lyon en demi en battant les London Irish 19 à 18.
La pole position, encore une fois, pour Charles Leclerc.
Le Monégasque, leader du championnat de Formule 1 avec sa Ferrari, prendra donc en tête le départ du Grand Prix de Miami tout à l'heure à 21h30 pour un tout nouveau tracé déjà très controversé, Sébastien Paour.
Des monoplaces à près de 320 km/h autour de leur luxueuse villa au bord de l'eau. Les habitants de la très chic Miami Beach n'en ont pas voulu. Les organisateurs ont dû se rabattre à une dizaine de kilomètres plus au nord, à Miami Gardens, et le circuit a été dessiné autour du stade de l'équipe de football américain des Miami Dolphins. Son vice-président est aussi le promoteur du Grand Prix. Et pour vendre du rêve, il n'a pas lésiné sur les moyens. Une fosse marina de 2300 m² a été construite, avec une douzaine de yachts, certains de plus de 20 mètres, posés sur un sol en trompe-l'œil bleu pour figurer l'océan. Les 85 000 places se sont vendues en 40 minutes. Facture pour un siège sur la ligne de départ pour la course aujourd'hui, 13 000 €. Formula One a signé pour 10 ans avec Miami. La justice lui a donné raison pour cette année, mais elle va devoir composer avec les résidents de Miami Gardens à 70% noirs qui, eux non plus, ne veulent pas des nuisances sonores et de circulation autour de chez eux, malgré les retombées financières. Une nouvelle audience est prévue dans 6 mois. Le circuit de 5 km 400 pourrait bien être tracé ailleurs, à Miami, dans les prochaines années. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Carlos Alcaraz deviendra-t-il le plus jeune vainqueur du Masters 1000 de tennis de Madrid? L'Espagnol de 19 ans et 3 jours, tombeur de Nadal et Djokovic, affronte en ce moment en finale l'Allemand Zverev, tenant du titre. Le prodige vient de remporter le premier set 6-3. Et puis la troisième étape du Giro, le Tour d'Italie, remporté au sprint par Mark Cavendish devant Arnaud Démare sur les rives du lac Balaton en Hongrie. Mathieu Van Der Poel est toujours en rose.
Un championnat du monde maintenant plutôt insolite. Le championnat du monde du lancer d'avions en papier. Un concours qui ne se prend pas au sérieux, qui ne demande pas des années et des années d'entraînement, mais c'est une véritable compétition ouverte aux étudiants. Deux Français vont participer à partir de jeudi au final mondial en Autriche. Le lancer d'avions en papier entre deux partiels. C'est le long format de ce soir, signé Nicolas Perronnet.
Le record à battre, 69 mètres et 14 centimètres. C'est bien plus que la moitié d'un terrain de foot. Et évidemment, il y a des règles.
Déjà, la feuille A4, il faut l'utiliser entièrement.
Julien Mathieu est le tout nouveau champion de France de la discipline.
On n'a pas le droit de la découper, pas le droit de rajouter du poids dessus, évidemment. Et voilà, il faut pas sortir de la zone délimitée, en fait.
Alors cet étudiant en école d'ingénieur à Paris le reconnaît.
Ça part d'un délire avec deux potes.
Et pourtant, le week-end dernier, avec un lancer à plus de 40 mètres dans le hangar du musée Aéroscopia de Blagnac, il a décroché son billet pour la grande finale mondiale.
Je ne savais pas que j'allais être champion de France un jour, et surtout pas dans cette discipline, mais... Mais c'est une fierté en soi. Voilà, va falloir rendre les Français fiers de moi.
Réussir ses partiels d'abord en début de semaine parce qu'il y a des priorités dans la vie, mais il faut bien s'entraîner. Petite leçon de pliage quand même devant l'école.
Alors on va commencer en faisant deux premiers plis, comme ceci. Puis depuis ce pli-là, normalement on va le plier 7 fois sur lui-même. Ça va plus ressembler à un javelot à la fin. Voilà, on va le lancer.
Voilà, il y a du vent, on triche un peu quoi.
Ouais, voilà.
Rien de bien sérieux dans cette compétition, mais tout le monde joue le jeu. Julien a son comité de soutien, son coach attitré, et il ne sera pas le seul Français en lice pour un titre mondial. Paul Brebineau, étudiant près de Biarritz, lui s'est qualifié dans la catégorie du temps de vol.
9 secondes 72. Et le record, il est de 29 secondes et quelques.
Avec lui aussi, une technique bien rodée.
Je le prends pas comme si j'allais lancer droit devant moi, je le prends à l'envers. Et je le fais partir de bas pour le lancer le plus haut possible à la verticale. Et ensuite, une fois qu'il arrive le plus haut possible, il se pose et il commence à planer en cercle.
Et pas besoin d'être ingénieur. Nos deux champions français ont peaufiné leur savoir-faire à base de vidéos sur Internet avant d'accéder à cette petite célébrité.
J'ai été accueilli dans l'école en tant que champion de France d'avion papier. Du coup, le lundi, quand je suis arrivé à l'école, tout le monde m'a un peu félicité de cet exploit, on va dire. Et là, on a pas mal d'enseignants et de personnes de l'administration de l'école qui sont contents et qui vont essayer de nous accompagner jusqu'en Autriche pour envoyer d'autres élèves et des supporters pour essayer de les envoyer là-bas.
L'Autriche où débutent donc jeudi les finales mondiales du lancer d'avions en papier dans un hangar de l'aéroport de Salzbourg, qui abrite un musée de l'aéronautique.
Et peut-être un champion du monde français. Long format signé ce soir, Nicolas Perronnet.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec plusieurs rendez-vous demain, lundi, et d'abord une double ration d'Europe. Emmanuel Macron se rend au Parlement européen à Strasbourg pour un discours à l'occasion de la journée de l'Europe avant d'enchaîner et d'aller à Berlin dans l'après-midi où il rencontrera le chancelier Olaf Scholz. Sur l'agenda judiciaire demain également, l'ancien Premier ministre François Fillon sera fixé sur son sort. La Cour d'appel de Paris rend sa décision dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Et puis, mercredi, début du procès en appel d'anciens dirigeants de France Télécom pour harcèlement moral ayant conduit à une série de suicides de salariés. Mercredi, c'est également le coup d'envoi du baccalauréat 2022 avec les épreuves écrites de spécialité. Elles sont organisées pour la première fois après deux années d'examen perturbés par le Covid. Et le Covid, justement, un second sommet mondial est prévu le lendemain. Demain, jeudi, ce sommet décidera de solutions pour mettre fin à la pandémie, mais aussi pour se préparer aux futures menaces. 6 millions de personnes sont mortes de la maladie dans le monde et le taux de mortalité décroît. Mais ici et là, le virus est toujours présent, Sophie Becherel.
La pandémie est contrôlée, mais pas terminée. Voilà ce que disait vendredi à propos de la France le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Une situation valable à l'échelle mondiale. Le nombre de morts reflue, les contaminations aussi depuis la troisième semaine de mars, ce qui qui n'empêche pas ici et là certains pays de connaître des mini-rebonds. C'est ce qu'on a vu cette semaine aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Amérique centrale, en Afrique du Sud ou encore à Taïwan et au Sri Lanka. Le virus circule donc toujours, une situation qui perdure en raison des inégalités vaccinales. Quand certaines nations affichent un taux de couverture supérieur à 80%, le Portugal, Malte ou le Chili par exemple, les pays à plus faible revenu n'ont pu vacciner que 15% de leur population à ce jour. Le sommet mondial sera l'occasion de revenir sur le succès relatif de l'initiative COVAX. Une fois bien vaccinés, les pays riches n'ont pas fait preuve d'une grande solidarité avec les plus pauvres, ni par les dons, ni par le soutien logistique à la vaccination. La réunion de jeudi évoquera sans nul doute les risques à venir à long terme, la répétition de la crise du Covid-19, cette pandémie qui a été favorisée par la destruction de nos écosystèmes et la crise climatique.
Et on terminera la semaine samedi avec la finale du concours de l'Eurovision à Turin en Italie, sans la Russie exclue du concours. Et il y a une date la semaine prochaine que beaucoup d'entre nous ont certainement noté. Vendredi 13, le seul de cette année 2022, chance ou malchance, en tout cas les casinos, la Française des Jeux en parle beaucoup. C'est mon actu, Sandrine Houdin a tendu son micro à Héloïse Mozzani, historienne et auteure chez Robert Laffont du grand livre des superstitions. Et selon Héloïse Mozzani, nous sommes bien plus superstitieux qu'on ne le pense.
Le cinéaste Claude Lelouch a toujours eu un chiffre fétiche qui était le 13, hein, puisqu'il signe les contrats le 13, il commençait le tournage le 13. Il y a un autre exemple, c'est Claude François qui a demandé à un grand joaillier de lui faire un 13 en or en guise de porte-bonheur. Certains hôpitaux, surtout en service de soins intensifs, pas de chambre 13, parce que si la personne est superstitieuse, elle sera dans de mauvaises conditions psychologiques. Il y a un théâtre parisien qui a une loge numéro 13 amovible, parce que si le comédien est superstitieux, on va le changer en 12 bis. Des ascenseurs.
Des chambres d'hôtel.
Enfin, sous le gouvernement Rocard, un dîner de chef d'État, ils étaient très à table et le chef du protocole a demandé à ce qu'on rajoute un 14e convive pour ne pas froisser éventuellement la superstition d'un de ces chefs d'État. Donc c'est vraiment dans toutes les strates de la société.
Et pourquoi le vendredi 13?
Parce qu'il associe le vendredi, connotation maléfique, puisque c'est associé au vendredi saint, le jour de la mort du Christ, et le 13 qui fait référence au dernier repas, le repas de la scène où Jésus et ses 12 apôtres étaient attablés et qui précède la trahison de Judas et la mort du Christ. Pendant des siècles, le vendredi 13 a été le jour terrible.
Alors, comment on passe du maléfique à la chance?
Alors, quitte à pas avoir de chance, autant conjurer le mauvais sort et tenter. Mais c'est quelque chose qui, ça, typiquement français. Par exemple, l'Inde, la Chine, ça va être le 8 qui va porter chance. Au Japon, le grand chiffre porte malheur, ça va être le 4. Donc, c'est vraiment culturel. Porter son tablier à l'envers par inadvertance, ben, dans une région, ça va être signe d'infidélité de son mari. Dans une autre, ça va être au contraire signe de chance. Celle qui m'a le plus amusée remonte au Moyen-Âge, où pour que les enfants se tiennent bien à table, on dise « qui pète en mangeant voit le diable en mourant ». J'ai trouvé ça irrésistible.
Allez. La préférée.
Ah, moi j'adore celle de la Tour Eiffel.
C'est quoi ça?
C'est quand on a construit la Tour Eiffel, on prétendait que les chauves devaient monter au sommet, parce que comme ça ils retrouveraient leurs cheveux. Pendant longtemps, il y a eu des gens qui ont cherché à monter avec le plus haut possible sur la Tour Eiffel.
Voilà, Héloïse Mozzani, spécialiste des superstitions. C'est mon actu, Sandrine Houdin, au générique de cette édition. Merci à Fabrice Desmaz et Thomas Langlin en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Rachid Zourdani. Un grand, grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Cette journée de lundi sera baignée par un soleil rayonnant sur la plupart des régions, avec, pour rentrer un peu plus dans les détails, des nuages bas et des brouillards matinaux principalement répartis sur les Landes et en basse vallée du Rhône. Et l'après-midi, le développement des habituelles averses orageuses sur l'Auvergne, l'est des Pyrénées, le Jura, les Alpes et la montagne Corse. Et puis, en fin de journée, le voile nuageux aura tendance à s'épaissir sur la Bretagne et la Normandie. Les températures maximales vont progresser dans la partie nord, venant ainsi à égalité avec la moitié sud, avec par exemple 26 à Rennes, Lille, Orléans, Bourges, Metz et Strasbourg, 27 au Mans et à Paris, pas moins de 22 à 24 sur le reste de la moitié nord. Dans la partie sud, il fera près de 28 degrés de la Charente à la Garonne, 23 dans le golfe du Lion, 24 sur le Limousin et 25 degrés en Rhône-Alpes et sur la Camargue.
Jean-Michel Golinski de Météo France.